Il y a toujours ça de prix, puis arrive la bourse va un peu mieux en ce début d'année.
Mais pas à peu près, Paul. Tous ceux qui ont vendu en panique en décembre doivent un peu le regretter parce que ils ont laissé aller un 5, 6, 7% de rendement dépendant de certains titres directement aux poubelles parce qu'ils ont décidé de vendre dans un creux. Alors que tout bon investisseur vont vous dire, lorsque les titres sont dans un creux, profitez-en pour acheter. La bourse canadienne était en rabais de 10% par rapport à l'an dernier. Donc, ceux qui disaient qu'ils avaient pas peur d'acheter l'an dernier lorsque la bourse était élevée, mais qu'ils avaient peur d'acheter lorsque la bourse était plus faible, ont comme un bien investisseur un peu pénalisant. Et j'ajoute à ça, évidemment, que le fameux effet de janvier, dont je parle tout le temps, de dire qu'en janvier, les titres remontent parce que les gens pensent que c'est le début de l'année, parce qu'il y a plus d'investisseurs, parce que les gens mettent leur bonus de fin d'année dans l'investissement. Pour plusieurs raisons de temps, janvier, début février sont parfois historiquement de bons mois. Alors, le titre, les titres aux États-Unis, autant aux États-Unis qu'au Canada, ont pris de la valeur. Les indices, les titres, puis tous les titres dont on parle souvent ont pris de la valeur. Facebook a pris 12%, Paul, 12% en quelques jours. Netflix, c'est plusieurs pourcentages. On est vraiment élevé. Wells Fargo, la banque qui était prise dans un problème l'an dernier, 6,6%. Donc, on voit que c'est difficile de perdre d'argent depuis le 1er janvier en bourse. Il faut quasiment avoir été malchanceux.
L'effet janvier, hein? C'est ça comme ça on appelle ça?
The January Effect. Exact. L'effet janvier en France.
Alors, Martin Coiteux n'aura pas chômé longtemps après son départ de la politique, puisqu'il a été nommé économiste en chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Et je peux dire une chose, Martin Coiteux, je l'ai un peu côtoyé dans le passé à HEC Montréal. Je peux dire une chose, c'est un homme d'une très grande rigueur intellectuelle. Donc, on peut lui reprocher d'être d'une façon ou d'une autre, mais quand on discute avec cet homme, il est prêt toujours à vulgariser, à s'impliquer dans le débat public. Donc, son parcours est professeur à HEC pendant 2 décennies. Il a un diplôme d'études doctorales. Il a été ministre, mais surtout au Conseil du Trésor, où il avait le méchant rôle de dire non. Il avait fait un saut avant la Banque du Canada, très court avant d'aller en politique. Et tu sais ce qui l'avait piqué, lui? C'était vraiment le côté de la charte, là. De dire qu'au Québec, on va commencer à créer un système de valeurs qui était extrêmement ancré, qui avait une certaine dose de discrimination. Lui, ça l'avait piqué au vif et il avait senti que c'était le moment pour lui d'aller intervenir. Il était comme appelé par ça, appelé par le désir de servir et voilà. Il se retrouve à la caisse et je me dis, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ce qui est bien pour eux. T'as un gars qui a il est bon en théorie économique. Il a fait de la politique. Il a des contacts, il a travaillé à la Banque du Canada, il a fait de la vulgarisation, il sait parler aux médias. Tu sais, pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est quand même un candidat numéro un. C'est quand même un candidat intéressant au niveau de tout ce que t'as comme enjeu. Parce que la Caisse, il y a les déposants, il y a le gouvernement, il y a le public, il y a les journalistes, et il y a de la politique derrière. Donc, tout ça fait en sorte que lui, il a exactement la feuille de route pour adhérer à ce genre de poste-là et peut comprendre les tenants et aboutissants.
Groupe Sportsène, c'est évidemment le groupe qui est derrière les cages au sport, s'inspire de Saint-Hubert.
Oui, parce qu'on, tu sais, on a beau avoir des restaurants de la cage, brasserie sportive, qui représentent un bon pourcentage des revenus. Ce qui est payant quand tu as un restaurant maintenant, c'est le mettre une marque dessus. T'sais, on a acheté Moïse parce qu'on voit la vente en épicerie potentielle avec la cage. On a vu ce qui est arrivé avec Saint-Hubert. Saint-Hubert, le 2/3 de la patente, c'était des ventes en épicerie. Imagine, ta salade de choux en épicerie, t'sais, ton pâté au poulet en épicerie et tous tes produits en épicerie étaient dans le fond ancrés dans la tête du consommateur qui, oui, soupait au Saint-Hubert le vendredi soir ou le samedi, mais le mardi soir, des fois, s'achetait un plat Saint-Hubert à l'épicerie. Donc, c'est une façon d'aller monétiser davantage ton client. Et quand on regarde les bénéfices, on fait 1 million de bénéfices pour un trimestre, 28 millions de revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la transformation. C'est un groupe qui était rendu à perte. On a dit, OK, c'est fini, le poulet mort de soif, on change ça, les frites congelées, maintenant on met de la nourriture fraîche, des pokéballs, des tartares, on monte la valeur de l'assiette, on monte la marge, on va chercher une clientèle qui veut plus voir un match du Canadien manger du popcorn, on veut aller chercher la clientèle qui vient à la cage pour manger à la cage. Et le sport va devenir arbitraire, comme ça, les journées où le Canadien ira pas bien, on vendra quand même parce que il y a pas juste l'écran géant qui va attirer la personne, il va y avoir aussi maintenant d'autres choses, c'est-à-dire la nourriture. Et maintenant, on veut que cette personne-là aille à l'épicerie nous acheter de la nourriture.
C'est pas fou. Mais t'as raison de dire que cette image-là d'un groupe de personnes qui étirait soit une bière ou une boisson gazeuse avec du popcorn. Non, mais en regardant l'écran géant, ça rapporte pas beaucoup.
Mais c'est pas juste ça. Ça consomme... une portion de la clientèle qui aime pas le sport, mais qui aimerait l'ambiance qui est un peu plus à améliorer et qui aime aussi bien manger ou même aller dîner. Donc, au centre-ville, par exemple, la cage se retrouve à fournir des hommes et des femmes d'affaires ou des gens qui travaillent au centre-ville maintenant et qui veulent avoir un repas avec un verre de vin et tout ça. Tandis qu'avant, c'était plus prenons une grosse motion avec un épichet, avec du popcorn en regardant les écrans géants. Mais maintenant, des écrans géants, les gens en ont chez eux. Donc, tu dois leur vendre une autre valeur et c'est ce que la cage fait. On vend une porte-étendard pour vous vendre votre panier d'épicerie par la suite.
Merci, Pierre-Yves.
Salut, Paul.
À demain.